reprenons, si vous voulez bien. Et notre invité aujourd'hui est Joshua Landy, qui est professeur à l'université Stanford en Californie, qui est donc venu de loin pour vous parler. Il a fait ses études à Cambridge au Royaume-Uni et puis à Princeton aux États-Unis, et c'est là qu'il a fait son doctorat. Je le connais notamment par un livre qui a été publié il y a quelques années, en 2004, à Oxford University Press, qui s'appelle « Philosophy as Fiction », la philosophie comme fiction, « Self, Deception and Knowledge in Proust ».« Self », qu'on ne sait jamais très bien comment traduire, « le soi », « Deception », qu'on ne sait jamais non plus comment très bien comment traduire, la duperie de soi, and knowledge, bon, et la connaissance chez Proust. Vous le voyez, ses intérêts portent sur les relations de la littérature et de la philosophie, sur la philosophie de la littérature, sur la littérature philosophique, sur le récit et la, comment est-ce qu'on a, comment est-ce que vous traduisez, self-fashioning, et la constitution du moi, la construction du moi, la formation du moi, hein, le récit et la formation du moi. Je crois que c'est le sujet auquel il s'intéresse maintenant, hein, la contribution donc de la littérature, du récit, de la fiction à la formation du moi. Et son titre pour nous aujourd'hui est « Un égoïsme utilisable pour autrui », qui résonne tout à fait avec ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est une citation du Temps retrouvé que je compte faire la semaine prochaine. Le statut normatif de l'autodescription chez Proust. À vous.
Merci. Et je m'excuse d'avance d'anticiper sur la semaine prochaine. Je suis infiniment reconnaissant envers le Collège de France et envers Antoine Compagnon de m'avoir invité. C'est un vrai honneur, un plaisir et un privilège de me tenir ici devant vous. Et c'est encore plus un honneur d'apporter ma modeste contribution à ce cours extraordinaire sur les morales de Proust. J'ai eu le grand plaisir de participer virtuellement à certains des cours d'Antoine Compagnon à travers le podcast équivalent contemporain des Demoiselles du téléphone dont il est question dans Le Côté des Guermantes. Je dois dire que ça m'a réjoui énormément de trouver que mon approche a quelquefois des affinités avec celle d'Antoine, surtout en ce qui concerne ce qu'il a appelé, suivant Foucault, le souci de soi. Mais revenons à Proust. Presque tout à la fin de la recherche, le protagoniste reçoit deux lettres. Madame Mollé l'invite à une soirée et Madame Sazra lui fait part de la mort de son fils. Marcel, souffrant, recueille ses forces afin de répondre aux deux femmes. Il écrit à Madame Mollé son regret de ne pouvoir assister à la soirée. À Madame Sazra, il présente ses condoléances. Rien de bien surprenant là-dedans. Rien de surprenant non plus dans le fait que Marcel se reproche d'avoir consacré un peu de son précieux temps à répondre à Madame Mollé, car si l'on ne sait rien d'autre après 3000 pages, on saura sûrement que le héros considère les heures passées en salon le temps perdu par excellence. Mais que penser, par contre, du fait qu'il qualifie également la réponse à Madame Sazra de gaspillage? Je cite, « Je lui écrivais aussi, puis, ayant ainsi sacrifié un devoir réel à l'obligation factice de me montrer poli et sensible, je tombais sans force. » Nous sommes en présence ici de ce que Friedrich Nietzsche appellerait un renversement de valeur. C'est la création solitaire qui constitue maintenant le devoir réel, et la tendresse, la sensibilité, constituent un devoir factice, voire un leurre, une tentation, une infraction au devoir. Autrement dit, l'égotisme, la concentration intense et exclusive sur soi, est érigé en valeur suprême. Et la considération vers autrui, qui est d'ordinaire l'essence même de la morale, se trouve reléguée au statut de distraction, de tentation. Comme le dit Marcel ailleurs, je cite, « le devoir de faire mon œuvre, primé celui d'être poli ou même bon ». Fin de citation. Que penser de cette partie du dénouement ? Ne devons-nous pas en conclure que le protagoniste abandonne dangereusement le monde qui l'entoure pour se dévouer à un narcissisme coupable ? C'est à peu de choses près le jugement de Martha Nussbaum, par exemple. La première chose que l'on pourrait noter, c'est que l'esthétique devient ici une éthique dans le sens fort du terme. Alors là, on peut se demander si le jugement de Proust contre le mélange d'éthique et d'esthétique impliquerait. Mais de toute manière, l'esthétique devient ici une éthique, dans le sens fort du terme, non seulement un bien, mais un bien qui exige des sacrifices, un nouvel ascétisme, pour ainsi dire. Ceci, nous l'avons déjà vu à Martainville. Nous l'avons vu aussi dans le cas de Bergotte, même aujourd'hui. Bergotte, pour qui les devoirs effectifs étaient remplacés par le devoir d'imaginer d'autres vies. Et nous le voyons aussi chez Ruskin, pour qui, selon Proust, sa morale, je cite, « le poussait à sacrifier non seulement tous ses plaisirs, mais aussi tous ses devoirs ». Fin de citation. Il les sacrifie au besoin d'apercevoir et de reproduire ses réalités spéciales. L'esthétique n'est donc pas un pur hédonisme chez Proust. On hésiterait pourtant à lui accorder aussi facilement le terme de morale. Peut-on vraiment parler ici de devoir ? Si oui, qu'est-ce qui nous pousse à nous acquitter de ce devoir-là ? Autrement dit, d'où provient le statut normatif de cet idéal ? Il est vrai que le travail sur soi, le perfectionnement de soi, peut être considéré comme une valeur autonome. Montaigne semble parfois le penser, lui qui écrit que nous nous devons en partie à la société, mais en la meilleure partie à nous. Et peut-être Proust fait-il allusion à Montaigne, en poussant les vrais plus loin, lorsqu'il fait dire à Marcel que, je cite, « nous ne créons en réalité de devoir qu'envers nous-mêmes ». Mais je ne crois pas que ce soit le dernier mot de l'affaire. Je crois qu'il faut prendre le narrateur de Proust à la lettre lorsqu'il parle de son devoir. C'est pour nous qu'il fait ce qu'il fait. De même que c'est pour nous que Proust, lui, fait ce qu'il fait. Mais pour bien comprendre pourquoi, pour comprendre exactement la nature du cadeau que Marcel essaie de nous offrir, allant jusqu'à sacrifier ses autres devoirs à cette fin, et à plus forte raison pour comprendre la nature du service que Proust essaie de nous rendre, il faut d'abord saisir les véritables enjeux de la recherche. De quoi s'agit-il au juste dans ce roman si volumineux ? Ainsi que son titre l'indique, il y est en effet parfois question de temps, de mémoire, d'oubli. Mais ce qui hante le narrateur, ce n'est pas tant l'incapacité de se souvenir, mais bien plutôt l'incapacité d'être. Le roman part même de là. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Et le roman menace d'y conclure. Ma vie, se plaint le narrateur dans Albertine disparue, m'a paru comme dépourvue du support d'un moi individuel, identique et permanent. C'est là, dirais-je, la grande épouvante. Le véritable moteur de la recherche, ce à quoi le roman doit offrir une réponse. L'individu qui se tient devant nous veut parler de lui, veut se décrire. Très bien, mais pour ce faire, il faut d'abord qu'il satisfasse à trois exigences. En premier lieu, il faut qu'il y ait matière à parler, c'est-à-dire il faut qu'il soit quelque chose, qu'il ait un moi, qu'il possède cette particule magique qui garantit à la fois son identité à lui-même et sa distinction des autres. Ensuite, il faut le posséder, ce moi. Il faut y avoir accès. Il faut le connaître suffisamment afin de pouvoir le décrire. Et enfin, il faut avoir la capacité de transmettre les connaissances acquises. Or, chez Proust, chacune de ces trois exigences, ontologique, épistémologique et communicative, se trouve mise en cause. Suis-je d'abord quelque chose d'identifiable du doigt, quelque chose de stable, de cohérent et d'unique? Le problème, c'est que je partage bien des traits avec mes semblables. Et inversement, je diffère énormément de moi-même, car j'ai l'impression de changer au cours de la vie, de n'être plus celui que j'étais il y a 10 ans et parfois même il y a 10 minutes. Chez Proust, ces changements ont lieu de façon non seulement fréquente, mais aussi dramatique, au point qu'il sied de parler de la mort d'un moi et de la naissance d'un second. Même si l'on pouvait exclure la dimension temporelle, il faudrait toujours avouer que l'on diffère de soi, puisque l'on est si souvent en désaccord avec soi-même. Mes désirs se mêlent, se contredisent, luttent avec ma raison. Me voici donc divisé de manière et diachronique et synchronique. Qui plus est, je saisis assez mal mes propres tendances. C'est le cas de Baudelaire, on en a vu tout à l'heure. Je saisis assez mal mes propres tendances. Bien souvent, ce n'est qu'après coup que je commence à comprendre les motifs de mes actes, les structures profondes qui ont été, à mon insu, responsables de mes décisions les plus importantes. Parfois, je réussis à me convaincre d'une croyance que je sais, à un certain niveau, être fausse. Et puis si, par miracle, je tombe sur une facette réelle et stable de mon moi, le langage que j'utilise pour la transmettre doit nécessairement la falsifier, étant donné que le langage, de par ses origines, sert à transmettre le commun, le partagé, et non ce qui me rend distinct du troupeau. Fondamentalement, dit Nietzsche, tous nos actes sont incomparablement personnels, uniques et infiniment individuels, il n'y en a aucun doute. Mais dès que nous les traduisons en conscience et en langage, ils n'en ont plus l'air. Nous nous trouvons à la fin dans une version subjectiviste de l'impasse qu'a proposé le sophiste Gorgias au 5e siècle avant Jésus-Christ. Primo, il n'y a pas de vérité. Même si elle existait, secundo, on ne pourrait pas la savoir, et tertio, même si on le pouvait, elle serait indicible. Nous nous trouvons, comme Marcel, dépourvus du support d'un moi individuel identique et permanent. Quelque chose qui serait identique à soi, qui ne changerait pas, qui m'identifierait en me séparant des autres. C'est là, d'après moi, la grande question de la recherche. Et c'est à cette question-là que la fameuse mémoire involontaire offre une première réponse tentative. Et non pas, comme on pourrait le croire, à la question de l'oubli. Car ce que révèle l'épiphanie mnémonique n'est pas seulement, ni centralement, une période révolue de la vie, la période de Balbec, par exemple, ou celle d'Ancière. C'est aussi le moi qui occupait cette période-là, qui habitait cet endroit-là, qui vivait cette vie-là. Et c'est, en troisième lieu, un moi d'un ordre tout autre, un moi permanent, celui-là, sous-jacent à tous les autres, à tous les mois de rechange. Pourquoi ? Parce que la condition de possibilité de la mémoire involontaire est que je puisse percevoir le monde et ses phénomènes de manière identique pendant toute ma vie. Cette Madeleine-ci, aujourd'hui à Paris, doit avoir pour moi exactement le même goût que cette Madeleine-là, celle d'il y a 30 ans à Combray. Sinon, la mémoire involontaire serait strictement inconcevable. Une partie de mon être n'a donc pas changé, malgré l'impression que donnent certaines affirmations du narrateur, surtout dans Albertine Speru, sur l'hécatombe des mois. C'est cette partie inchangeante du moi qui me permet non seulement de regarder mes souvenirs comme des photographies, mais de les revivre de l'intérieur. Marcel, notons bien, retrouve non seulement les images, les odeurs, les sons qui assaillaient ses sens à une lointaine époque de sa vie, mais aussi ses désirs contemporains, ses craintes de l'époque, ses croyances, parfois longtemps abandonnées. Et c'est ce qui me rend, en dépit de tout, cette identité personnelle dont parle John Locke, lorsqu'il dit que, je cite, « Tant qu'un être intelligent peut répéter en soi-même l'idée d'une action passée, avec la même conscience qu'il en avait eue premièrement, et avec la même qu'il a d'une action présente, jusqu'ici, il est le même soi. La mémoire involontaire indique donc l'existence d'un moi permanent, celui que Marcel appelle le vrai moi. Il en indique l'existence, dis-je, mais elle n'en précise pas la nature, et c'est pour cette raison qu'elle ne fournit pas en fait de solution définitive. On peut pourtant déjà induire du mécanisme de la mémoire involontaire que ce qui ne change pas, c'est la manière distinctive dont nous percevons chacun le monde qui nous entoure. Que notre vrai moi, comme le dit Marcel, est la réalité telle que nous l'avons sentie. Qu'il est, en d'autres termes, notre orientation primordiale, le cadre dans lequel nous organisons l'expérience. En un mot, notre perspective. Car Proust semble partager avec Kant et avec Nietzsche la persuasion que les données des sens ne sont aucunement structurées en elles-mêmes, et que c'est l'esprit humain qui les rend intelligibles en les classifiant sous une série de schémas. Comme Kant, Proust considère l'expérience une déformation régulière des choses en soi. Je cite, « Les arbres, le soleil et le ciel ne seraient pas tels que nous les voyons s'ils étaient connus par des êtres ayant des yeux autrement constitués que les nôtres. » Mais comme Nietzsche, Proust ajoute une deuxième couche déformation, celle-ci non partagée par tous les êtres humains, mais spécifique à l'individu. Et c'est cette deuxième couche qui me constitue au niveau le plus profond, au-dessous de tous les changements survenus au cours de ma vie, derrière les faux moi que je présente à autrui, et en deçà de tout conflit interne, de toute mauvaise foi. Elle se révèle à chaque fois qu'il s'avère possible de mesurer un écart entre ce que j'ai cru voir et ce que je constate avoir été la réalité objective. Objective, encore une fois, dans le sens kantien. Ou même un écart entre ce que j'ai cru voir et ce qu'un autre a cru voir. Comme dans le diptyque magnifique qui oppose d'un côté la Rachel tant admirée par Robert et vue par un Marcel ébahi, et de l'autre côté, l'Albertine, tant admirée par Marcel, est vue par un Robert ébahi. C'est ça, la jeune fille que tu aimes ? Ces deux expériences, parallèles et inverses, révèlent donc, tout comme les épiphanies mnémoniques, que, je paraphrase, en dépit des conclusions qui semblent se dégager de la science, l'individuel existe. C'est déjà quelque chose, et même beaucoup, de savoir que l'individuel existe. À un prix bas. De savoir que l'individuel existe, que je ne suis pas, comme le craint Marcel, dépourvu du support d'un moi individuel, identique et permanent. Pourtant, et ceci va être l'un des aspects les plus importants de la morale de Proust, savoir au juste qui je suis est tout autre chose. Si je suis foncièrement la manière dont je perçois le monde, il s'ensuit que je suis invisible à moi-même, car il est impossible, par définition, de voir la partie de nous qui regarde. Pour ce faire, il faut un détour, tout comme dans le monde physique, il faut le détour du miroir pour saisir notre propre regard. L'introspection, en fin de compte, n'est jamais suffisante. Il faut toujours prendre le biais du monde extérieur. Comme nous vient le montrer si plaisamment le diptyque de stupéfaction de Robert face à Albertine, stupéfaction de Marcel face à Rachel, l'amour va fournir un détour extrêmement puissant. Un homme a presque toujours la même manière de s'enrhumer, dit Marcel, analogie qui, soit dit en passant, en dit long sur son attitude. Et de même, il est naturel que, quand il devient amoureux, ce soit à propos d'un certain genre de femme. Et Marcel d'ajouter ailleurs, elles sont, ces femmes, un produit de notre tempérament, une image, une projection renversée, un négatif de notre sensibilité. Pour en savoir plus long sur notre vrai moi, il suffit donc de nous laisser agir, de nous laisser aimer, quitte à déduire a posteriori les motifs qui se trouvent avoir, à notre insu, dirigé nos choix de la plus haute portée. Au lieu d'examiner notre âme de manière a priori, exercice futile étant donné une mauvaise foi incontournable, nous devrions considérer nos propres actes comme s'ils étaient ceux d'un autre et examiner sèchement les effets pour en remonter aux causes. Si la théorie tient, et je crois quant à moi qu'il y a beaucoup à dire en sa faveur, voilà maintenant résolues deux des trois difficultés dont nous sommes partis. D'abord, l'existence d'un vrai moi, d'une perspective individuelle qui me rend à la fois semblable à moi-même et différent des autres, répond à la question ontologique, c'est-à-dire la question de l'existence d'un moi individuel, identique et permanent. Ensuite, la déduction a posteriori répond à la question épistémologique, c'est-à-dire à la question de la connaissance de cet aspect du moi qui assure ma consistance, mais qui a, comme nous l'avons vu, tendance à se cacher derrière la duperie de soi, les rôles sociaux et les changements diachroniques. Que dire pourtant de la troisième exigence, la communicative ? Nous avons vu que le langage direct n'est pas propre à transmettre l'essence d'un individu, étant inexorablement voué à la distribution d'énoncés universels, universellement compréhensibles. C'est donc, comme l'a très bien vu Gérard Genette, le langage indirect qui doit désormais s'en charger. Le langage trahit le vrai moi bien plus qu'il ne l'exprime. Et c'est de prime abord le style, car le style, comme on sait, est une question non de technique mais de vision. Il est la révélation qui serait impossible par des moyens directs et conscients de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît le monde, citation très connue du temps retrouvé. Que faire pourtant de tous ces mois diachroniques, de tous ces états qui se succèdent au cours d'une vie ? Il ne suffit pas de découvrir, de connaître, même de transmettre le vrai moi, car ce moi-là est d'une minceur évanescente. Je suis certes ma perspective, si l'on veut bien, mais je suis aussi ce que j'ai été, ou pour mieux dire, ce au pluriel que j'ai été. Je suis la longue série des mois qui balise mes jours. Marcel nous l'annonce dès le début du roman, où le souvenir de plusieurs chambres, et par conséquent la résurrection de plusieurs mois anciens, recomposait peu à peu les traits originaux de mon moi. Le moi total consiste en la somme, l'intégrale de tous les mois successifs. Ou plutôt, le moi total consiste en la narration de tous ces mois, puisque seule une narration peut introduire suffisamment d'ordre dans les diverses étapes d'une vie pour les considérer comme un tout. La notion de la narrativité est très en vogue actuellement, du moins dans le monde anglophone. Il est devenu un lieu commun de la philosophie et de la critique que le bien-être nécessite la narration. Pour maximiser la satisfaction et minimiser le regret au cours d'une vie, il faut se conter l'histoire de sa vie, depuis la naissance jusqu'à un telos imaginé. Cette idée contient une grande part de vérité. Après tout, la signification de n'importe quel acte dépend de sa position dans une longue série de fins hiérarchisées. Ceci étant dit, il me semble que les théories actuelles négligent trois principes fondamentaux qui sont présents de manière implicite ou explicite dans l'approche de Proust. Premier principe, la narration va forcément être provisoire et la croyance en elle va par conséquent être illusoire. Imaginez, et je sais que c'est pénible, que vous êtes Madame Verdurin, que c'est la fin du XIXe siècle et que vous avez commis l'erreur mondaine de vous décider pour Dreyfus. Quelle est la signification de cette décision ? Quelle place a-t-elle dans votre histoire ? La réponse est simple et le narrateur nous le donne explicitement dans La prisonnière. Le dreyfusisme constitue un énorme retard dans votre ascension sociale. Mais il suffit d'une vingtaine d'années pour que la signification de ce même événement, de ce même choix, soit entièrement renversée. Maintenant, c'est le moteur même de votre triomphe, ce qui s'avère à avoir été la décision la plus propice de votre vie. C'est dire que, paradoxalement, l'avenir a le pouvoir de changer le passé dans un acte de causation rétroactive. Chaque rencontre, chaque décision, chaque événement risque d'affecter non seulement ce qui est, mais aussi ce qui a été. Tout à coup, un revers se métamorphose en bienfait, Une pierre rejetée se transforme en pierre d'angle. Pourquoi, pour changer d'exemple, Marcel s'arrête-t-il au cours de sa description de la cour faite à Gilberte pour nous parler d'une occasion qu'il laisse passer de rencontrer une certaine Albertine Simonet? Mais parce que cette Albertine Simonet va devenir l'amour de sa vie. Soudain, l'épisode du rendez-vous refusé vaut la peine d'être raconté. Si Marcel avait écrit ses mémoires avant le trajet de Balbec, avant de tomber amoureux d'Albertine, il n'aurait sûrement pas fait référence à cet épisode totalement insignifiant. Mais ceci implique que les événements ultérieurs peuvent nécessiter non seulement un post-scriptum à notre narration personnelle, mais une réécriture totale, une nouvelle édition, si vous voulez. Et cela implique à son tour qu'aucune version n'a le droit de se présenter comme définitive. S'il est possible d'attribuer deux significations radicalement distinctes à un seul incident, on devrait hésiter longtemps avant de considérer l'une ou l'autre comme vraie. Deuxième principe, la narration doit être de nature esthétique. Si vous avez lu les articles récents à propos de l'identité narrative, vous aurez vu que les philosophes se réclament souvent de précédents littéraires, se servent souvent d'exemples extraits de romans. Mais en ce faisant, ils ne saisissent que la trame narrative, laissant entièrement de côté les effets littéraires. Tout se passe comme si la littérature n'était qu'un réceptacle commode d'histoires un peu plus détaillées qu'à l'ordinaire. Ce que comprend Proust, par contre, c'est que les techniques littéraires sont indispensables. Ce sont elles, par-dessous tout, qu'il faut extraire de la littérature. Revenons à l'exemple de Gilberte et d'Albertine. Ce que Marcel ne savait pas à l'époque, en tant que personnage, et qu'il sait maintenant, en tant que narrateur, c'est qu'Albertine va acquérir une importance décisive dans sa vie. Importance bien au-dessus de celle à laquelle atteint Gilberte elle-même. C'est pour cela qu'il vaut la peine d'inclure dans sa narration ce non-lieu trivial de rencontre ratée. Mais si c'est le cas, inversement, pourquoi parler de Gilberte? Pourquoi toute l'attention accordée à un amour de second rang? On pourrait penser que c'est parce qu'elle a causé, d'une certaine manière, l'amour pour Albertine, en orientant par exemple les désirs ou les attentes du protagoniste. Mais ce serait faux. L'épisode de Gilberte ne cause pas l'épisode d'Albertine, il le prépare. Si je considérais ma vie, dit le narrateur, mes autres amours n'y avaient été que de minces et timides essais qui préparaient l'amour pour Albertine. Tout comme la sonate de Vinteuil prépare sans causer son septuor triomphal. L'amour pour Gilberte, c'est ce que Genette appellerait une amorce, en anglais « foreshadowing », geste prolectique non causal. Et c'est avec des amorces, tout autant qu'avec des enchaînements d'effets, qu'il faut procéder pour forger la narration d'une vie. Les divers mois qui m'ont constitué au cours de ma vie tiennent ensemble, non pas parce qu'ils se sont créés les uns les autres, mais parce qu'ils conspirent à produire une unité d'effets. Troisième principe, entièrement implicite celui-ci, la narration du moi n'a presque aucune valeur en elle-même. Son importance est purement instrumentale. Si la narration du passé possède une valeur, c'est celle de nous préparer à compter l'avenir. C'est en écoutant les histoires des autres que j'apprends comment raconter ma propre histoire. C'est en comptant ma propre histoire que j'apprends comment compter l'histoire de mon avenir. Et c'est l'histoire de ma vie à venir qui va me permettre d'agir, de prendre des décisions, de maximiser la satisfaction et de minimiser le regret. La narration de mon histoire n'est pas importante en elle-même, dis-je, mais elle m'habitue à considérer ma vie comme quelque chose de passé et d'entier, comme dit Nietzsche. Elle m'habitue à me projeter dans l'avenir, à occuper une position imaginaire, d'où tout ce que je vais faire et tout ce que je vais subir semble être derrière moi, et d'évaluer, à partir de mon expérience avec les narrations ordinaires, si, oui ou non, ce passé me satisferait. Elle m'habitue, en bref, de vivre au futur antérieur. Elle m'habitue à me demander à n'importe quel instant de ma vie, non pas ce que je suis, mais ce que j'aurais été. Elle m'habitue à rendre compte de ma situation présente à partir d'un moi futur postulé. Ce qui compte à la fin, ce n'est pas d'écrire son autobiographie, c'est de vivre autobiographiquement. Ce troisième principe risque de paraître un peu inattendu. Le but de la recherche n'est-il pas précisément de retrouver le passé, le temps perdu ? La recherche n'est-elle pas la narration du passé ? Et en tant que telle, ne présente-t-elle pas la narration du passé comme précieuse, intrinsèquement ? Oui et non. C'est, si vous voulez, la narration du passé du narrateur. Mais ce n'est pas, quoique certains aient pu le dire, la narration du passé de Proust. Il est vrai que le narrateur se décide, à la fin de la recherche, à écrire une œuvre d'art qui sera, il est dit explicitement, la vie réalisée dans un livre. Il est vrai aussi que le narrateur arrive à l'idée, je cite, « que tous ces matériaux de l'œuvre littéraire, c'était ma vie passée ». Mais c'est ici qu'il faut le plus soigneusement séparer le narrateur d'avec son créateur. Les énoncés de Marcel vis-à-vis l'œuvre à venir sont-ils applicables à l'œuvre de Proust ? Doit-on inférer à partir d'eux que Proust considère sa propre œuvre comme la vie réalisée dans un livre et, par extension, qu'il invite tout un chacun à réaliser sa vie dans un livre ? Nullement. Tout d'abord, il n'est aucunement certain que l'œuvre que Marcel promet d'écrire est identique à celle qu'on vient de lire. Même si la quasi-totalité de lecteurs professionnels de Proust, Antoine Compagnon, je suis ravi de constater, constitue une exception importante, se sont mis d'accord pour considérer que Marcel devient Proust. C'est-à-dire que Marcel finit par écrire la recherche, ce postulat reste infiniment douteux. Que Marcel a déjà écrit ce que nous venons de lire, ce qu'il appelle son récit, avant d'entreprendre cette vie réalisée dans un livre qu'il appelle son œuvre. La nuance est significative. Je répète, il a déjà écrit ce que nous venons de lire, ce qui implique fortement que ce qu'il va écrire va être autre chose. Comment sait-on qu'il a déjà écrit ce que nous venons de lire ? Mais parce qu'il fait si fréquemment référence au cours de son récit à ce qu'il a dit ailleurs ou va dire ailleurs. Un exemple au hasard, la vie continue est presque semblable pour bien des personnes qui ont figuré dans ce récit. Marcel est-il vraiment sur le point de réécrire, mot par mot, les 3000 pages qu'il a déjà rédigées ? Ce serait un Pierre Menard, auteur de sa propre autobiographie. Et même s'il réécrivait, mot à mot, les 3000 pages, son projet n'en différerait pas moins de celui de Proust. Car pour Marcel, ces 3000 pages sont une histoire vraie. Pour Proust, par contre, c'est une fiction, un livre où tout a été inventé par moi selon les besoins de ma démonstration. Il doit être une fiction même, car seule une œuvre d'imagination risque de communiquer de façon indirecte la manière de voir de son auteur. La plus grande différence entre Proust et son personnage, c'est que celui-là laisse derrière lui un roman, dédaignant d'écrire ses mémoires, tandis que celui-ci écrit une autobiographie et arrive à la fin de sa vie sans savoir s'il aura le temps ni les forces de produire une œuvre littéraire achevée. Non, Proust n'est pas en train de conseiller à tout le monde une œuvre directement autobiographique. S'il était absolument nécessaire de raconter sa vie pour le public, Bergotte aurait échoué. Elstir, Vinteuil et jusqu'à Proust lui-même auraient échoué. L'idéal pour Proust, à la différence de Marcel, ce n'est pas la vie réalisée dans la littérature, c'est bien plutôt la vie en tant que littérature. C'est vivre comme si sa vie était sur le point d'être transposée à tout moment en œuvre littéraire, sans jamais essayer de le faire. Je crois que l'on peut considérer ce qui précède, et non à tort, comme un apport décisif de la part de Proust à la théorie du moi. Mais, pour revenir à la question que j'ai posée tout au début, où est le devoir dans tout cela ? Si Marcel se met à la recherche de son vrai moi et à la narration esthétique de son moi total, on peut bien dire qu'il fait quelque chose d'utile, quelque chose qui a sans doute une valeur eudémonique pour lui, mais rien ne semble l'y obliger. Tout au contraire, cela risque, il semble, de contrecarrer le devoir. Son activité risque de paraître amorale ou même immorale. Antoine a bien noté que c'est aussi le jugement des premiers lecteurs de Proust. Cela risque, en bref, de se réduire à l'égoïsme pur. Mais selon Marcel, cette manière d'aborder la chose serait un malentendu complet. Je cite « Ce que j'avais éprouvé dans la bibliothèque et que je cherchais à protéger, c'était plaisir encore, mais non plus égoïste, ou du moins d'un égoïsme utilisable pour autrui. » L'égoïsme de Marcel est donc utilisable pour autrui, c'est-à-dire altruiste. Qui plus est, tout acte vraiment altruiste dépend, selon lui, de l'égoïsme. Qu'est-ce donc que Marcel va nous apporter exactement en écrivant égoïstement son chef-d'œuvre ? D'abord, il faut tenir compte du fait que la découverte et la perspective d'un autre peut avoir une valeur pour nous, tout autant que la découverte de notre propre perspective. Je cite « Par l'art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre. » L'art nous permet donc de détruire les murs de la cellule solipsiste de laquelle, dès le premier volume, Marcel cherche obstinément à s'évader. Et en ce faisant, il restitue aussi la dimension de l'infini. En 1917, le sociologue allemand Max Weber a prononcé un diagnostic célèbre sur la modernité. « Le sort de notre époque, dit-il, se caractérise par la rationalisation, par l'intellectualisation et surtout par le désenchantement du monde. Peu à peu, notait-il, la sphère d'influence de la croyance religieuse s'était rétrécie. De moins en moins de miracles, de plus en plus de phénomènes naturels à expliquer de manière scientifique. Les autodafés contre les sorciers remplacés par des procès criminels intentés contre des charlatans. La possession démoniaque traitée bien plus souvent par un psychanalyste que par un exorciste. Pierre à pierre, les ailes de la cathédrale de foi traditionnelle étaient en train d'être démolies et transportées dans le musée de l'histoire culturelle. » On peut aisément donner raison à Weber dans ses grandes lignes. Pourtant, Weber a négligé une chose. C'est que, à chaque fois que la religion s'est retirée d'un aspect de l'expérience, une nouvelle stratégie s'est élevée pour remplir le vide. Une stratégie cette fois laïque et intentionnelle, stratégie du réenchantement du monde. Le désenchantement progressif du monde que Weber a si bien senti s'accompagne, dans les faits, d'un réenchantement progressif du monde, réenchantement moderne, sans recours aux anciennes croyances, et réenchantement multiple. Car, comme Nietzsche l'a vu, l'idée de Dieu remplit une pléthore de fonctions tout à la fois. Ce qu'il faut restituer au monde, c'est non seulement le mystère et le merveilleux, c'est aussi l'ordre, la signification, la nécessité, la téléologie, la providence. Ce qu'il faut restituer à la vie humaine, c'est non seulement le sacré, mais aussi la rédemption, l'épiphanie, le miracle. Et pour y revenir, c'est aussi la dimension de l'infini. Le monde est redevenu infini pour nous, écrit Nietzsche dans Le Gai Savoir, vu que nous ne pouvons pas écarter la possibilité qu'elle inclut une infinité d'interprétations. Le narrateur de Proust pense exactement de même. Ce n'est pas un univers, dit-il, c'est des millions, presque autant qu'il existe de prunelles et d'intelligences humaines qui s'éveillent tous les matins. Si la découverte du vrai moi restitue au monde la dimension de la profondeur que l'on a faussement cru trouver dans une interprétation religieuse du monde, la révélation de ce vrai moi restitue au monde la dimension de l'infini et la restitue pour les autres. Sacrifier sa vie à cela, c'est en effet faire un acte profondément altruiste. Mais ce n'est pas le seul bienfait que nous promet le narrateur de Proust. « Mes lecteurs, dit-il, ne seraient pas selon moi mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'eux-mêmes. » Deuxième geste altruiste donc du narrateur de Proust, fournir aux autres le moyen de se connaître, de connaître ce moi qui, nous l'avons vu, échappe à toute observation directe. Comment son ver grossissant, comme il l'appelle, fonctionnera-t-il au juste ? Marcel ne le dit pas. Mais il serait légitime de postuler qu'il s'agit, ici aussi, tout comme dans le choix de partenaire, par exemple, d'un processus a posteriori, d'une série de distorsions intuitives saisies après coup par l'intelligence correctrice, d'une expérience, presque dans le sens scientifique, où l'on remonte systématiquement des effets aux causes. Le meilleur exemple, il me semble, vient d'être fourni par un jeune critique américain, Hervé Pichery, qui applique cette idée au roman de Proust lui-même. Quand, demande Pichery, est-ce que Charles Swann tombe-t-il exactement amoureux d'Odette de Crécy ? La réponse est surprenante. Swann tombe 8 fois amoureux d'Odette, toujours pour la première fois, et toujours, nuance importante, pour une raison différente. Il s'attache à Odette parce qu'elle semble lui échapper, oui, mais au contraire, il s'attache à elle aussi parce qu'elle semble lui appartenir, et aussi parce qu'il réussit à l'esthétiser, et aussi parce que Charlus parle d'elle. C'est bien le désir mimétique de René Girard, mais notons que ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Et aussi parce qu'elle lui montre de la bonté, et ainsi de suite. Il n'y a donc pas de réponse, ou si vous voulez, il y a trop de réponses à la question du quand et du comment Swann s'attache à Odette. Que doit-on faire de cette cornucopie d'amour de Swann ? On pourrait penser qu'il faut s'abstenir rigoureusement de se laisser prendre, s'abstenir de choisir un des amours de Swann. Mais ce serait un deuxième type d'erreur. Il faut choisir instinctivement, involontairement, quitte à se rendre compte après du choix que l'on a fait, notant à la relecture la pluralité des voies possibles. Ici comme ailleurs, c'est l'intelligence critique qui développe, comme le dit Marcel, les négatifs pris par l'intuition, éclaircissement de la seule manière possible, le moi permanent et élusif. Pour reprendre la phrase si belle d'Antoine Compagnon, nous sommes ici interloqués, perplexes, mais d'une perplexité, ajouterais-je, qui doit aboutir à une certitude, certitude entièrement subjective, mais stable. Le commencement de la philosophie, dit Socrate dans le Théaetète de Platon, c'est l'émerveillement, to thauma. Mais la conclusion de la philosophie, ajoute Aristote, c'est le savoir. Chez Proust aussi, la perplexité doit aboutir à une connaissance ici de soi. Voici déjà 2 services rendus par un Proust étonnamment altruiste. D'abord, le réenchantement du monde à travers la multiplication de perspectives perceptibles. Puis, le don d'outils propres à la découverte du moi chez le lecteur. Ce ne sont pas pourtant les seuls cadeaux qu'il nous offre, car il nous présente aussi, dans l'autobiographie même de son personnage, un modèle, modèle formel, pour la construction d'un moi total. Ce qui compte dans cette narration, c'est non seulement la série d'actes accomplis et d'expériences subies, c'est aussi la manière dont ils sont incorporés dans une structure qui essaie de leur donner à chacun sa place, une place à la fois nécessaire et subjective. C'est en cela que la recherche se présente non pas comme exemple de vie, ce n'est pas une hagiographie, une confession à la Saint-Augustin, mais comme histoire de vie. C'est l'exemple d'une nouvelle manière de penser la vie, d'imposer un ordre à tous les mois diachroniques. Ce qu'il faut apprendre, si j'ose dire, c'est avant tout une pensée hypotactique, pensée qui sait organiser tous les éléments d'une vie dans une structure complexe mais stable. Rappelons-nous pourtant que la narration du moi est forcément provisoire et la croyance en elle illusoire, du moins dans une certaine mesure. Il ne suffit pas de raconter son histoire, il faut aussi soutenir sa foi en elle, même lorsqu'on reconnaît sa contingence. Il faut aussi la reconstruire de temps en temps, quand de nouveaux développements auront changé la signification et la valeur de l'histoire ancienne. C'est là où intervient le bienfait ultime de Proust. Car son roman, me semble-t-il, se présente comme un gigantesque terrain d'exercice pour les capacités requises. C'est un roman formatif, dans le sens où il veut davantage former le lecteur que l'instruire, ou plutôt qu'il invite le lecteur plutôt à se former qu'à s'instruire, tout bienfait étant entièrement volontaire. Une œuvre d'art est toujours une offre, jamais une obligation. La recherche, roman formatif. En invitant le lecteur à relire non seulement d'anciens passages qui s'avèrent avoir été significatifs, Mais jusqu'à la phrase même que l'on vient de lire, que l'on sait ne pas avoir entièrement comprise, dont certains détails nous échappent, le roman nous incite à acquérir et à aiguiser notre capacité pour la réévaluation du passé. La recherche, roman formatif, en invitant le lecteur à croire et à ne pas croire ce qu'il lit, parce que certaines des maximes de Marcel sont ironisées par un Proust bien autrement astucieux, le roman nous invite à tonifier nos muscles cérébraux, pour ainsi dire, à fortifier notre capacité d'illusion lucide. Dans tous les deux cas, ce qui compte, ce ne sont pas les idées que l'on forme, mais bien plutôt l'attitude que l'on prend, la position mentale que l'on adopte, le processus de lecture que l'on maintient. Par-dessus tout, la recherche s'offre, ultime générosité de Proust, comme un entraînement pour la vie. La recherche s'adresse donc à nous, nous nous adressons donc à la recherche, de diverses manières. J'arrive à ma conclusion. Le lecteur est sommé, il est vrai, d'écouter plus ou moins passivement une histoire et d'absorber une série d'idées philosophiques. Mais la communication ici est aussi indirecte. Et c'est à nous de saisir, même de manière intuitive, la perspective de l'auteur à travers le style de l'œuvre. Et à un troisième niveau, notre lecture est un processus, une course d'obstacles, où il importe de tomber dans les pièges tendus pour nous, quitte à en extraire, par raisonnement déductif et a posteriori, une connaissance approfondie de notre vrai moi. Puis, à un quatrième niveau, l'œuvre se présente comme modèle formel, en braquant notre attention non pas sur l'histoire que nous raconte Marcel, mais sur la forme qu'il y impose, et nous fournit l'occasion d'emprunter des techniques pour la composition de notre propre histoire. Enfin, cinquième et dernier niveau, c'est un entraînement, c'est un aiguisement des capacités mentales à travers le travail que suscite le texte. Y a-t-il donc une morale de Proust ? Oui et non. Certes, la narration ne se donne pas pour but la transformation morale du lecteur. Même s'il y a souvent question de justice et d'injustice, je suis d'accord, on pense immédiatement, par exemple, à l'exécution de Charlus par l'évêque d'Urin. L'on n'est pas censé apprendre par de pareilles scènes que certains comportements sont injustes. Tout au contraire, si l'on ne sait pas d'avance que la conspiration et le mensonge sont injustes, l'on n'en comprendra tout simplement pas ce que l'on lit. En même temps, la recherche constitue un acte altruiste de la part de Proust, tout comme l'œuvre que Marcel va écrire sera, elle aussi, un égoïsme utilisable pour autrui. S'il n'y a pas de moralité de l'œuvre de l'art, il y a une moralité de l'artiste. Il y aurait été hérétique de dire ceci pendant l'ère de la méfiance dont Antoine a parlé, mais le roman entier est un cadeau gigantesque que l'écrivain nous offre, au prix même de ses propres forces. C'est le cadeau qui nous permet, si seulement nous apprenons à nous en servir, de devenir ce que nous sommes. C'est le cadeau qui réenchante le monde. Merci.